Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Ça roule Radio, une émission hebdomadaire qui, comme vous le savez, vous parle d'automobile, d'actualité et d'essais. Une émission qui, cette semaine, prend une tournure un peu différente parce que je vais vous parler d'une part d'un essai que j'ai effectué dans la région de New York, celui de la Fiat 500X, et je vous demande de réserver vos mauvaises pensées un peu avant qu'on ait l'occasion d'en discuter. Et au retour de la pause, je vais vous faire entendre une entrevue que j'ai effectuée avec M. Jason Chenick. Jason Chenick, c'est le président directeur général de Ducati Amérique du Nord. Il était de passage à Montréal la semaine dernière pour procéder à l'ouverture d'un nouveau centre Ducati. Et j'ai eu l'occasion de faire une entrevue téléphonique avec M. Chenick, un homme fort intéressant par ailleurs, qui nous explique un peu quelle était l'intention de Ducati et pourquoi le marché canadien et québécois était aussi important pour la marque italienne. Donc ça, ce sera après la pause. On va aussi parler du nouveau sondage Appeal de J.D. Power, qui nous réserve des surprises, je dois le dire. En tout cas, qui, moi, m'a réservé quelques surprises, je dois vous l'avouer. Mais d'entrée de jeu, je dois vous parler de mon voyage à New York cette semaine avec la Fiat 500X. Je le sais, la plupart des gens à qui on parle de la Fiat 500X, la première pensée qu'ils ont, c'est de nous dire que la voiture n'est pas fiable, que c'est une voiture qui a eu sa part de problèmes, qui a eu toutes sortes de difficultés, ce qui n'est pas faux, il faut le dire. C'est vrai qu'on a eu des problèmes avec ce véhicule-là. C'est vrai que, notamment, la transmission a posé de sérieuses difficultés à bien du monde, la fameuse transmission automatique 9 vitesses. Écoutez, quand je suis allé, j'étais avec un collègue, là, Daniel Ruffiange, et c'était un peu ironique parce que nous étions tous les deux au lancement de la première version de la 500X dans la région de Baltimore. Et au moment de l'essai de Daniel à Baltimore, il roulait sur la route et ils ont dû s'arrêter parce que la transmission avait tout simplement gelé. Bien, d'une part, elle avait figé en cinquième rapport. Par la suite, elle a figé en troisième pour finalement décider de rester en première et de ne jamais repartir. Donc, ils ont dû faire appel à l'organisation pour aller les chercher et pour partir avec la voiture. Ce qui n'est pas nécessairement de bon augure au moment d'un lancement de véhicule. Excusez-moi. Rassurez-vous, ça n'a pas été le cas cette fois-ci à New York. Au contraire, en fait, j'ai été même assez impressionné de la façon dont on avait modifié les choses. Et là, je dois vous expliquer tout de suite. On parle d'une Fiat 500X 2019, donc un véhicule qui est encore disponible, mais on n'a rien changé physiquement. Physiquement, c'est exactement la même voiture que l'on connaît depuis quelques années. Une voiture qui est un peu... pour vous situer, là, pour ceux qui ne la replacent pas, la 500X, c'est la version utilitaire sport, si l'on veut, de la Fiat 500. Utilitaire sport étant un grand mot, vous aurez compris, là, mais elle est un peu plus imposante, bien qu'elle ait gardé des dimensions sportives, et ce n'est pas la 500L qui a des rondeurs un peu partout. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus voir dans la 500X quelque chose de très, très musclé, de très, très athlétique. Ça demeure un peu plus athlétique que la 500, bien sûr un peu plus imposant en dimension, mais ce n'est quand même pas là quelque chose d'extrême. Comme tous les utilitaires, c'est un véhicule qui est doté d'un rouage intégral, mais vous aurez compris que ce n'est pas avec ça qu'on va aller escalader des montagnes. Ceci étant dit, c'est quand même un véhicule qui a conservé sa personnalité, la personnalité de la Fiat 500, et ça, pour moi, c'est important, parce que ça fait vraiment partie de la raison pour laquelle on achète une Fiat. On nous a fait le dévoilement, en fait, de cette nouvelle 500X à l'intérieur d'un studio d'artistes, d'une galerie d'art, si vous voulez, dans les rues de New York. Et honnêtement, j'ai trouvé que le mariage était absolument idéal. Parce que oui, la 500, c'est un bel exercice de design. La 500X aussi. C'est un exercice de design où on a su préserver, je dirais, l'héritage de la 500 avec les phares ronds, avec la façon dont on a, par exemple, installé le capot avant, ce qu'on appelle le clamshell, là, la façon dont le capot se referme. Ça paraît, on a conservé les rondeurs, on a conservé tout ça. Et c'est un peu, je vous dirais, aussi iconique que la Mini peut l'être dans une certaine mesure. Bien sûr, avec des dimensions qui sont presque deux fois plus grandes. Là. Quand on met les deux d'un côté de l'autre, la première génération de la Fiat 500 et la nouvelle, on ne parle évidemment pas de même taille, mais quand même, on a été capable de conserver ça et on a conservé ce style-là à l'intérieur de la voiture aussi. Oui, il y a des rondeurs, oui, il y a des boutons ronds un peu partout. Même les haut-parleurs, en fait, qui sont quand même des Beats, là, la sonorité est excellente. Un système multimédia qui est sur un écran qui est au coin arrondi aussi. Bref, on a vraiment joué la carte des rondeurs. Ça n'a pas changé depuis la première génération. On a conservé cet élément-là au niveau de la 500X. Alors, vous dites, oui, mais c'est bien tout ça, mais pourquoi avoir fait un lancement si on n'a rien changé à la voiture? Bien, en fait, on a changé la chose la plus importante probablement, et c'est le moteur. Les gens qui connaissent Fiat un peu savent que Fiat dispose d'un moteur qui s'appelle le multi-air. C'est une technologie particulière, en fait, qui permet, si l'on veut, de modifier la capacité ou l'entrée d'air qu'il va avoir à l'intérieur de façon à moduler tout ça et à maximiser l'impact, à maximiser la combustion. On a toutes sortes de technologies aussi qui ont été ajoutées, si on veut, à cette voiture-là. Le multi-air, c'est exclusif à Fiat. Et là, on a changé la cylindrée. On est passé de 1.4 à 1.3. Vous allez dire, c'est pas grand-chose, vous avez raison. Mais il y a quand même une différence notable au niveau de la réaction du moteur. On a aussi modifié la puissance. On a maintenant 177 chevaux et 210 livres-pieds de couple, ce qui fait quand même une différence. Ça permet, en fait, d'avoir un véhicule qui est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agréable. On a aussi, on a conservé la même transmission, c'est la transmission automatique 9 vitesses, sauf qu'on a eu l'occasion de tester la voiture vraiment sur une route sinueuse. Bon, je vous le dis, c'est la partie qui suit est une partie touristique. On est parti de la ville de New York, une ville que j'adore en passant, là, que je continue d'adorer. Sauf que si vous allez sur Times Square, faites pas le saut, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de drôles de personnages, plus que jamais. Bien sûr, tout le monde connaît le Naked Cowboy, mais on a maintenant droit au Naked Cowgirl, dont une dame d'un certain âge qui se promenait à moitié nue. C'était pas nécessairement charmant, puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a un âge certain, là. C'était plus dans son attitude. Mais bon, tout ça pour dire qu'on était dans New York, une ville qui est incroyable, et on est parti de là, on est allé jusqu'au nord de l'État de New York, dans la région de Newburgh. Pour ceux qui connaissent l'endroit, on a pris le George Washington Bridge, on a pris le Palisade Highway qui est qui va au New Jersey. Et par la suite, on s'est retrouvé dans des routes de campagne sinueuses, montagneuses, qui bordent la rivière Hudson jusqu'à assez haut au nord. Et honnêtement, le paysage est absolument incroyable. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris. Je ne connaissais pas cet endroit-là. On s'est retrouvé à Newburgh, qui est une belle petite ville. En passant, si vous avez envie, si un jour vous allez à Newburgh, allez au Blue Point. C'est l'endroit où on a pris un lunch qui était absolument fabuleux, vraiment bien réussi, mais avec une vue sur l'Hudson aussi qui était agréable. Mais c'est surtout, ce qu'on a surtout retenu, c'est le parcours qu'on nous a fait faire. On a vraiment maximisé, si on veut, la conduite de la voiture. On a fait des parties d'autoroute. On a fait des parties de route de campagne et, ma foi, le jumelage entre la transmission et la nouvelle motorisation s'est avéré beaucoup plus agréable qu'on aurait pu le croire. Auparavant, la transmission changeait toujours de rapport. On avait l'impression qu'elle apprenait à compter quasiment, là, tellement elle se déroulait et elle changeait de rapport en permanence. Alors que là, elle est vraiment bien adaptée. Bien sûr, elle est, je dirais, tourner davantage vers le côté confortable, vers le côté économie de carburant, parce qu'on estime qu'on a vraiment économisé beaucoup. En fait, on dit qu'avec le nouveau moteur, même si on a augmenté la puissance, on a tellement modifié la consommation de carburant que pour chaque plein, on sauve entre 50 et 60 km. C'est quand même énorme. C'est une grosse différence. On dit aussi que, évidemment, parce qu'on élimine la consommation de carburant, on diminue d'autant la production de CO2. On dit que la partie qu'on a économisée en CO2, c'est l'équivalent d'un homme mature qui va courir 10 km. Donc, c'est la même, si vous voulez, la même quantité de CO2 qui est projetée par un homme qui fait 10 km que par ce qu'on a épargné sur la voiture, la Fiat 500X, avec le nouveau moteur. Écoutez, je ne sais pas quel impact ça a, mais je trouvais l'image intéressante. Ça nous donne une bonne idée. Tout ça pour dire que, bref, on s'est promené dans les routes de campagne. Le moteur, le jumelage avec la transmission, c'est très bien fait. Le reste, ça n'a pas changé. Là. Les suspensions, la direction et tout ça, ça n'a pas changé. On a un mode sport maintenant qui permet, je pense, d'améliorer un peu la réponse du moteur, notamment au niveau du couple. On a eu l'occasion de le tester à quelques endroits. Bien sûr, il y a un mode manuel avec la transmission qui répond assez bien, moi, je dois le dire, là, mais qui n'est pas... qui n'est pas explosif non plus. Il faut quand même se souvenir qu'on parle d'une Fiat 500X. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup apprécié ma randonnée avec la Fiat 500X un peu partout. Et mon collègue aussi, on n'a pas réellement trouvé de défaut. Il y a quelques retards de réponse dans la transmission, mais rien de majeur. Pour le reste, c'est un véhicule qui est homogène, c'est un véhicule qui est bien équilibré, qui est... Bon, pas spacieux, on s'entend, parce que ça demeure une Fiat 500, mais qui a quand même un bon espace de chargement, compte tenu de sa taille, bien sûr, et qui se comporte bien. Bon, là, la question, c'est, est-ce que la voiture sera fiable? On ne le sait pas, évidemment, vous aurez compris qu'on ne peut pas évaluer ça. Cependant, juste le niveau de réaction, la façon dont la transmission réagit avec la motorisation, me laisse croire que c'est mieux né que ça ne l'était dans la première version et que ça devrait généralement agir de façon plus efficace. Mais là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va devoir voir au fil des années et on verra ce que ça donne. L'autre question, et je n'ai pas la réponse au moment où je vous parle, c'est une question de prix. Parce que jusqu'à maintenant, le plus gros défaut de la Fiat 500X, c'est son prix. En général, la Fiat 500 n'est pas très compétitive dans ce monde-là parce qu'elle est offerte à un prix beaucoup trop élevé, plus les problèmes de fiabilité dont on a parlé, là, mais je pense que le prix d'accès était vraiment très élevé et que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va diminuer avec le nouveau moteur. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience à son volant. J'ai trouvé qu'elle s'était considérablement améliorée au niveau de la rapidité d'intervention, au niveau de la rapidité de réaction, au niveau de la nervosité du moteur, mais aussi au niveau de la réponse en général. Ça demeure un véhicule, je vous le dis, qui passe partout, qui a fait ses preuves en zone urbaine, parce que quand on est revenu, on s'est retrouvé coincé dans le trafic new-yorkais à un point tel qu'on a finalement laissé la voiture en bordure de la route. On s'est rendu à pied un coin de rue plus loin, puis on a dit au responsable, regardez, là-bas, allez la chercher, parce qu'on était tanné d'attendre derrière les autobus. Alors, c'est un véhicule qui a fait ses preuves en milieu urbain. Rayon de braquage intéressant. Ce n'est pas la plus grande sensation de conduite, mais c'est un véhicule qui est honnête et, comme je vous le dis, qui, jusqu'à maintenant, en tout cas, avec la nouvelle motorisation, donne un effet quand même intéressant. Mon gros bémol, c'est le prix que je n'ai pas encore. On a eu des prix américains, mais je n'ai pas eu les prix canadiens. Je vous dirais que c'est surtout au niveau de la consommation d'essence aussi que le nouveau moteur agit vraiment. Donc, dans l'ensemble, c'est une belle réussite, une belle façon de faire progresser la Fiat 500. Si vous n'aimez pas le style, vous ne l'aimerez pas plus parce qu'elle n'a pas changé. Mais pour le reste, je pense que le moteur devrait réconcilier ceux qui ont eu des problèmes de fiabilité. Là-dessus, on va faire une petite pause. Et au retour de la pause, comme je vous l'ai dit, on aura une entrevue avec Jason Chinnick de Ducati, Amérique du Nord, qui va nous parler, entre autres, du marché canadien et du nouveau centre Ducati à Montréal. Alors voilà, nous sommes de retour après cette courte pause et comme promis, on va écouter l'entrevue avec Jason Chinnick. Je vous avertis immédiatement, l'entrevue est en anglais, elle s'est faite au téléphone alors que M. Chinnick était en route pour l'aéroport et pour l'Italie éventuellement. D'ailleurs, je ne me suis pas gêné pour lui dire qu'il était très chanceux et que j'étais jaloux, mais ceci étant dit, c'est quand même un homme qui a accepté de me donner cette entrevue-là en m'expliquant quelle était la position de Ducati. Donc, l'entrevue est en anglais. Je vais quand même mettre les questions en français pour vous éviter mon accent épouvantable. Ceci étant dit, je vais peut-être vous situer un peu. Il y a eu l'ouverture, comme je vous l'ai dit, d'un centre Ducati. Il en sera question dans l'entrevue d'ailleurs, à Montréal. Et c'est assez particulier parce que c'est un centre qui est assez unique. Alors, on va écouter Jason Chinnick qui, dans une première intervention, nous parle de l'importance du marché canadien pour Ducati. Honnêtement, moi, je lui ai demandé, en fait, pourquoi Montréal et quelle était l'importance de Ducati chez nous. Et à ma grande surprise, il semble que les gens adorent Ducati au Canada.
Well, Ducati in Canada is a very, very important market for us. Not only because of the size of the market, but also because of the quality. And when I say the quality, the type of bikes that we sell in Canada have a tendency to be a little bit more on the higher end of our product offering. Ducati is a brand that has expanded quite a bit over the last 20 years from being a company that only offered, let's call it, top-of-the-line super bikes and sport motorcycles to expanding into a product offering that allows many people access points into the brand. And because of that, Canada has a tendency to lean towards the more premium products of our lineup. And then when we look at Montreal specifically or Quebec, Quebec itself is the number two market for us in Canada, specifically Montreal, and within the top 10 in all of North America. And once again, the quality and the kind of the attraction towards the more premium of our lineup is something that the people in Quebec gravitate towards as more often than, let's say, our entry-level models.
Vous aurez compris que la qualité sonore n'est pas exceptionnelle parce que ça s'est fait au téléphone alors qu'il était en voiture, mais bon, vous comprenez quand même l'essentiel. Dans un deuxième volet, il est question vraiment du centre Ducati à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est un centre assez unique. C'est en fait une première en Amérique du Nord, cette forme de centre-là, et je pense qu'ils en sont très fiers. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est venu à Montréal lui-même en faire l'ouverture. En tout cas, je laisse Jason Chenick vous dévoiler les détails.
Yes, in fact, this is unofficially referred to as a Ducati flagship. They're exclusively Ducati dealer. That means they sell no other franchises or any products other than that from Ducati. And it's not only from an external facility, but the entire way that the showroom is laid out, the operations of the workshop. And there's over 900 square meters of footprint within the dealership to be able to not only represent the Ducati brand and the motorcycles, but the apparel, the accessories, the lifestyle, the workshop, and they've even built a cafe inside, a cafe bistro, which means it's a place where you can come when you drop off your motorcycle, or even if you're not there to get your motorcycle worked on, to have a small lunch, talk with some colleagues, meet up with other riders. So it's really about creating a center of lifestyle for Ducati that revolves around the brand, and the products are almost secondary as a result.
On ne peut pas parler de Ducati sans se questionner sur les gens qui sont prêts à investir ce type de montant-là dans une moto qui est une véritable moto de performance. J'ai donc demandé à M. Chenock quel était en fait le profil des acheteurs. Et vous allez voir que les Québécois et les Canadiens en général sont de bons acheteurs parce qu'ils correspondent exactement au style de vie que Ducati vise.
Well, going back to our core values of style, sophistication, and performance, our riders, they love that. They love the fact that it's a brand. Typically, a Ducati rider is somebody that has been a fan or an enthusiast of motorcycles, but has aspired or desired for that next level, that next step. Whilst we definitely have the thread, that common, the fil rouge of performance and sport within all of our product, the rider gravitates towards that because it's something as an emotional connection. You know, with Ducati, we say that we are not transportation with our motorcycles. We're entertainment. We're what people do with their free time, with their discretionary income, with really an opportunity for this to be an extension of who they are. So what we do, not only with our product, but what we would do with their activities, events, and our dealerships, should represent that to our clients as well. And one other thing that is very unique about our brand as well is that we also have another brand within the world of Ducati, and that's Scrambler. And now Scrambler doesn't have the same values of style, sophistication, and performance. Scrambler is thought of as a land of joy. And these are bikes that are post-heritage that allow people access or entry into the world of motorcycling through something that says, let's say, it doesn't take itself too seriously, is a little less performance oriented, and a little bit more about the simpler time of motorcycling. And it's a great complement to Ducati because it doesn't take away from our core values, but it adds another rider and another clientele that wants to embrace the world of motorcycling through our brand and through Scrambler.
Enfin, on n'a pas le président de Ducati sans parler de quelques modèles, entre autres la V4A-R, excusez-moi, qui littéralement, c'est la moto, super moto que Ducati utilise dans les circuits, dans les courses avec lesquelles il essaie de gagner les Grands Prix. Hein. Ils ont d'ailleurs quelques victoires. C'est littéralement la même moto. La seule nuance, évidemment, c'est que là, on l'a réalisée pour la route. Elle est offerte aux gens. Et c'est celle que l'on est venu dévoiler à Montréal, entre autres. J'ai donc laissé M. Chinook nous parler un peu de ces modèles.
It is demanded by our clientele. You know, they expect that from us. They expect for us to always deliver what we put on the track, we make available for them on the street. And this is something that we pride ourselves on, that we don't compromise that. And one of the few manufacturers that do that. I mean, we were at Laguna Seca this last weekend, and Chaz Davies took a second place on Saturday and then a first place on Sunday in the World Superbike Championship. And as a manufacturer, we're currently leading it with that bike. And customers want to know that the bike that the riders are out there competing with at a world stage is something that they can own. It gives them a part, you know, access to the brand in a way that you would only have, only in, let's say, very elite circles could you do so in the automotive world. But, you know, when we build these bikes, of course, they're homologated for use on the street. But to really get the performance out of the bike, to really just scratch the surface of what this bike was designed for, our clients have to take them to the track. And this is why we encourage and support our dealers and our customers being involved in those sorts of activities, because that's really where the bike has an opportunity to shine. But that close connection to our racing heritage and our spirit of sport needs to be accessible to our clientele, because there's sometimes confusion that we are an exclusive brand. And actually, we want to be inclusive. We want to provide people that love what we do access to this world. And we do that through our product, but then also through our dealerships and the promotions and events that we host as well.
Comme vous le voyez, Ducati est donc une marque qui est bien implantée chez nous. Honnêtement, je ne suis pas un motocycliste. Je l'ai déjà été dans une autre jeunesse, je vous dirais. Je ne fais plus de moto depuis quelques années, sauf que tous mes amis, tous mes collègues qui roulent les motos vont vous parler de Ducati avec une espèce d'étincelle dans les yeux. Je pense qu'on a l'explication pourquoi. Ce sont de véritables machines de guerre qui vraiment sont capables de répondre aux exigences les plus importantes. Et honnêtement, c'est assez impressionnant. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir le centre à Montréal, je vous invite à le faire parce que vraiment, c'est assez amusant de voir. On va sur place, écoutez, c'est magnifique, c'est super beau, mais c'est surtout la partie lounge où les gens sont là, discutent. C'est vraiment des passionnés. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Voilà, alors c'est ce qui met évidemment fin à cette entrevue. Je m'excuse, comme je vous l'ai dit, de l'anglais, mais je pense que vous pouvez comprendre assez facilement. Ceci étant dit, je vous avais aussi promis qu'on était pour parler de la fameuse étude APEAL. Qu'est-ce que c'est APEAL de J.D. Power? C'est, oh mon Dieu, attendez, c'est Automotive Performance... Automotive Performance Execution... and layout. Donc, évidemment, c'est un sondage que l'on réalise auprès de plusieurs propriétaires. On parle dans ce cas-ci de 68 000 propriétaires qui sont soit propriétaires ou locataires de leur véhicule depuis 3 mois. Et ces gens-là, donc, ont à évaluer dans 10 catégories les différentes caractéristiques de leur véhicule et on va jusqu'à définir 77 critères précis. Et quand je vous parle de critères précis, ça touche la mécanique, mais ça touche n'importe quel élément de la voiture. Et on veut savoir si les gens en sont satisfaits et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas à l'intérieur de leur voiture. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est le genre de sondage qui, au cours des années, avait coûté très très cher à Ford, au moment où Ford avait son fameux système Sync qui fonctionnait juste un peu. Ils l'ont vraiment amélioré beaucoup avec le Sync 3 notamment. Et on s'en rend compte puisque la plupart des systèmes d'infodivertissement avaient ce type de mauvaise critique-là, je vous dirais. La preuve, c'est que maintenant, le niveau de satisfaction à l'égard des systèmes d'infodivertissement a progressé de 10 points, ce qui est énorme. Je dois vous dire que bon, le classement des constructeurs se fait sur 1000 points, que la moyenne cette année, elle est de 823 pour la totalité de l'industrie, ce qui est une augmentation de 3 points seulement par rapport à l'année passée. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Là où c'est vraiment particulier, cependant, c'est que sur les 32 marques étudiées, il y en a 22 qui ont vu leur indice de satisfaction augmenter par rapport à l'année dernière. Ceux qui ont baissé ont considérablement baissé, mais ceux qui ont monté ont vraiment été en hausse et vous allez voir, on y arrive bientôt. Il y a, bon, sans surprise, les 8 premières positions ou 9 premières positions, ce sont des véhicules de luxe. Le premier, c'est Porsche qui arrive avec 891. Je vous rappelle que c'est sur 1000. Donc 891, suivi de BMW et Genesis à 868, Audi 867, Volvo à 863, Land Rover Lincoln à 860, et par la suite, Mercedes-Benz, Cadillac. Et c'est là que la nouvelle devient intéressante, parce qu'en 10e position, c'est Ram. Ram qui a augmenté son indice de satisfaction de 26 points. C'est la plus forte progression de tout le marché. Et c'est surtout, ça devient la première marque grand public à se classer là-dedans, derrière les marques de luxe. C'est quand même assez exceptionnel. Et il faut dire qu'en 11e position, immédiatement suivi derrière, ben c'est Dodge. Alors encore une fois, on se retrouve donc avec quelque chose d'assez particulier parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce que Dodge et Ram progressent aussi rapidement, mais ils l'ont fait, donc c'est vraiment, vraiment exceptionnel et je pense que ça démontre bien les efforts qui ont été faits. Je vous rappelle que ce n'est pas un sondage qui concerne la fiabilité, ça concerne uniquement l'indice de satisfaction des propriétaires. Donc, que les gens sont contents de leur véhicule et de l'ensemble des facteurs, système d'infodivertissement, mais aussi, bien sûr, mécanique, accélération, performance, design, espace, tout ça. On sait que le Ram 1500 a beaucoup, beaucoup progressé cette année, et je pense que ça paraît, on vient de le voir. Ceci étant dit, on a aussi, ben, malheureusement, quand on a des gagnants, on a des perdants. Les perdants, ben, c'est Subaru qui est à 807, Buick qui est à 800, et Mitsubishi, qui est à 773. Ça, c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Sauf que, encore une fois, il faut se poser la question jusqu'à quel point est-ce que ces classements-là ont une importance au fil des analyses. Parce que même si Subaru est troisième de la fin, rappelez-vous qu'il y a eu aussi un sondage il n'y a pas tellement longtemps où on estimait le niveau de loyauté des gens à l'égard de leur marque préférée. Eh bien, Subaru arrivait au premier rang. Donc, les gens qui achetaient un Subaru rachetaient un Subaru. Donc, on a des gens qui ne sont pas satisfaits, mais qui rachètent le même véhicule. Il y a comme quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Ceci étant dit, ça demeure quand même une analyse intéressante. Il faut savoir que, bien sûr, on évalue les marques, mais on évalue aussi certains modèles quand c'est possible. D'ailleurs, on a remis des prix à certains modèles spécifiques. Et de ce point de vue-là, c'est Ford qui a remporté la palme, si l'on veut, parce que Ford a gagné des prix, écoutez bien, là, le Ford Expedition, le F-150, le Ranger, le Ford Super Duty et le Lincoln Navigator. Donc, 5 prix pour Ford ou pour le groupe Ford, incluant Lincoln. Donc, c'est quand même une belle réussite pour eux. Du côté de BMW aussi, les choses ont plutôt bien été. Série 2, X4, Mini Cooper et Mini Countryman ont reçu le prix. Alors que du côté de GM, c'est le Chevrolet Blazer et le GMC Terrain. Honda n'a pas trop mal figuré non plus avec la Accord et l'Odyssey. Toyota a obtenu de bons résultats avec la Camry et la Yaris. Et le groupe Volkswagen, ben chez Volkswagen, on n'a rien du tout comme tel au niveau de la marque. Par contre, la Audi A7 et la Porsche Cayenne ont été les voitures qui l'ont emporté. Donc, comme vous le voyez, c'est assez impressionnant. Ça augmente considérablement. Parce que on est vraiment là, bon, je vous l'ai dit, ça progresse beaucoup par rapport au changement, entre autres pour Ram. Ça progresse au niveau de la moyenne de quelques points. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que si on sépare les marques de luxe et les marques, je dirais, d'entrée de gamme, les marques plus accessibles, il y a une différence. Il y a quand même une différence importante, là. On parle de 35 points de différence entre les marques de luxe qui sont à 853 et les autres qui sont à 818. Mais, il faut faire attention, il y a 3 ans, c'était de 50 points. Donc, l'écart entre les deux se rétrécit. Les gens qui achètent des voitures d'entrée de gamme sont de plus en plus satisfaits de leur véhicule, ou c'est ceux qui ont vraiment essayé les voitures, disons, plus ordinaires. Bon, pas plus ordinaires, j'aime pas ça, là. Mais c'est les gens qui... Mettons les voitures de luxe, les gens qui ont conduit les voitures de luxe qui ont été moins satisfaits. Donc, comme vous le voyez, on est tout à fait là-dedans. Je dois quand même vous dire qu'au-dessus de la moyenne, il y a pas mal de monde. Chrysler, GMC, Infiniti, Ford, Volkswagen, Acura, Mini, Jaguar, Alfa Romeo, Lexus rejoignent Dodge et Ram et les 8 autres que je vous ai mentionnés tantôt, ce qui est quand même une bonne nouvelle puisque l'industrie progresse. Alors, comme vous le voyez, l'industrie est en hausse. Les gens sont de plus en plus satisfaits de leur vie. C'est une excellente. Alors voilà qui met fin à cette émission, à l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez un bon été jusqu'à maintenant, que vous êtes prudents sur la route. J'espère que notre émission vous a plu aujourd'hui. On vous invite bien sûr à nous suivre. Vous pouvez télécharger cette émission-là sur Ça Roule Radio, bien entendu, mais aussi sur les plateformes Spotify, sur Google Play, sur tout ce que... sur Apple Store aussi, on est là, sur iTunes. En tout cas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, je ne suis pas là-dessus, mais... donc, vous pouvez le télécharger là, bien entendu. Vous pouvez aussi nous écouter directement à sportradio.ca ou à Radio Média Plus, deux radios Internet qui nous diffusent à quelques reprises durant la semaine. Bien entendu, venez nous retrouver directement sur notre page Facebook, Ça Roule Radio, ou envoyez vos questions et vos commentaires à info@saroulradio.com. Je salue encore bien bas mon ami Luc Desormeaux, qui n'est plus co-animateur avec moi, mais qui continue de faire le montage et la mise en ligne, à moins qu'il ne décide de me bouder. Ce ne devrait pas être le cas si vous l'écoutez. Mais bien sûr, un grand merci à Luc. Merci à vous d'être à l'écoute. Je vous invite à m'envoyer vos questions, vos commentaires, ils sont bienvenus, et à m'envoyer des suggestions de sujets. On en a reçu il y a quelques mois, je vais les faire au cours des prochaines semaines. Mais si vous avez des idées, je suis toujours ouvert. Alors voilà, bonne semaine à vous. Soyez prudents et profitez bien de la canicule. Il semble qu'il va faire encore très chaud.